toujours, mais que les enfants sont une récompense. Et rapprochez-vous. Voilà. Je vais me sentir la chaleur là. Vous savez que surtout quand on a des enfants en bas âge, parfois c'est pas toujours facile. Nous, vous savez qu'avec 3 ans et 1 an, c'est très vivant donc à la maison. Mais vous savez que quand on prend un peu de recul, surtout après 20h, 20h30, 21h, on se dit, franchement, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Non, c'est quelle bénédiction. Les enfants sont un vrai cadeau. Merci Seigneur pour ces enfants et que ça puisse encore grandir. C'est fou. Je ne sais plus si tout le monde est au courant, mais je le dis rapidement. Enfin, je le rappelle parce que on aime bien le rappeler avec Mathieu. Mais on a grandi dans la même église avec Mathieu. Et en fait, on est meilleurs amis depuis qu'on a 5, 6, 7 ou je sais plus 8 ans. Et je trouve ça tellement beau, 20, 30 ans après, qu'on ait implanté cette église tous les quatre avec nos épouses. J'ai dit, mais quel cadeau. Tout est parti de l'amitié qu'on a construit ensemble dans une communauté comme celle-ci, parce qu'ils ont commencé pareil, je me rappelle, donc à Nîmes, ils ont démarré, ils étaient 10 ou 15, et puis ça a grandi, et puis on a pu vraiment être enseignés, être instruits dans le Seigneur, grandir ensemble, créer de belles amitiés, passer du bon temps, et me dire, waouh, les fruits, 20-30 ans après, on implante une église ensemble, d'autres dans nos entourages ont sûrement fait de même ou autre chose, mais quel cadeau. Je me dis, c'est pas anodin ce que les enfants vivent là-bas, ensemble, toutes ces amitiés qui se créent. Croyez-moi, ça va porter du fruit, comme ça peut porter du fruit pour Mathieu et moi. C'est trop beau. Alors que je préparais pour cet après-midi, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, j'ai des sujets qui sont là plusieurs semaines avant, je sens qu'il y a quelque chose qui travaille. Là, j'ai pas d'inspiration particulière. Mais quand j'ai pris ce temps de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ouvre mon ordi pour commencer donc à préparer et le fond d'écran c'était une échelle. Et de suite alors que j'ai vu cette échelle, en fait c'est, je ne sais pas si sur vos ordis ça fait pareil, mais moi à chaque semaine ou je sais pas chaque mois, ça change d'image. Je sais pas, c'est sympa, donc parfois c'est des paysages. Et là je tombe sur cette échelle et bouf, d'un coup, tac. Je repense à cet épisode dans Genèse 28, l'échelle de Jacob. Et c'est fou, mais qu'est-ce que j'aime ça. C'est-à-dire que j'ai ça qui vient et d'un coup, j'ai tout qui me vient, quoi. Je sens que le Saint-Esprit commence à me parler sur cette échelle de Jacob. Donc peut-être que pour certains, ça vous parle pas du tout. Qu'est-ce que l'échelle de Jacob? C'est donc qu'on le trouve dans Genèse 28, et juste avant qu'on lise ensemble, vous rappelez qui est Jacob. Donc Jacob, c'est le fils d'Isaac. Donc rappelez-vous, souvent dans l'Ancien Testament, donc on voit que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Isaac avait deux fils, donc Jacob et Ésaü. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a plein d'histoires, mais surtout donc à la fin, c'est que Isaac allait mourir. Et il va pour donner sa bénédiction, et donc à l'époque, donc au temps du peuple d'Israël, on donnait toujours sa bénédiction à l'aîné. L'aîné, pour ceux qui sont aînés dans vos familles, dans nos familles, c'est particulier, l'aîné ça porte, l'aîné c'est celui qui est censé prendre le relais, quoi, dans la famille. Et c'est encore plus vrai, donc à l'époque, où vraiment l'aîné c'était celui qui recevait la bénédiction. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la mère de Jacob et d'Ésaü, Rebecca, avait une petite préférence pour son fils Jacob, et par le moyen d'une ruse, donc qu'elle a voulu que son fils Jacob ait la bénédiction. Et ça a marché parce que Isaac ne voyait plus très bien, et donc je vous passe les détails, mais en gros, donc il s'est mis, je sais plus, du poil de chèvre ou de mouton parce qu'il était pas très poilu. Enfin bref, en gros, pour se faire passer pour son fils, pour son frère Ésaü, et ça marchait. Son père Isaac a donné la bénédiction à Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous pouvez l'imaginer, son frère Ésaü était dans une rage folle et il voulait tuer son frère Jacob. Et donc, son père lui dit, pars de là, et fuit ce pays et va chercher donc une femme dans notre famille. Parce que pareil, donc à l'époque c'était assez particulier, mais on se mariait dans avec des femmes ou des hommes d'une même famille. Alors pas famille frères et sœurs, mais voilà, toujours c'était la famille élargie, et il y avait toujours cette histoire de ne pas aller chez les étrangers, parce que ces étrangers, ils adoraient des faux dieux et ils pouvaient détourner le cœur des hommes ou des femmes vers qui on pouvait aller. Et donc c'est pour ça qu'il y avait toujours cet encouragement, et c'était la même chose pour Isaac qui est allé chercher Rebecca dans sa famille, c'est de rester vraiment dans cette famille qui sert l'Éternel. Et donc Jacob part de Beersheba et s'en va à Charan, là où son père l'a envoyé. Et donc si vous avez votre téléphone ou votre Bible, je vous invite à prendre Genèse 28 verset 10, où il est dit que Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, c'était très confortable à l'époque, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je fais juste un petit stop. Si, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est peu ou prou les mêmes paroles que Dieu a données à son grand-père, Abraham. C'est beau, hein? Tu vois les étoiles qui sont nombreuses? Et bien, waouh! Voici, ça sera ça ta descendance. Aussi nombreux que les étoiles de la terre. Aussi nombreux que le sable de l'océan. Et c'est fou de voir que cette bénédiction, elle va de génération en génération. Moi, ça me touche à chaque fois ce beau verset qui dit que la bénédiction de l'Éternel s'étend jusqu'à 1000 générations. Et ce qu'on sème chez nos enfants, chez nos petits-enfants, il y a cette bénédiction qui passe de génération en génération. Et on continue, verset 15, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Waouh! Trop, trop beau. Trop, trop fort. Il y a énormément de symbolique et puis d'allégorie qu'on pourrait faire avec, avec ce songe, avec cette image et cette échelle. Et je ne pourrais pas toutes les citer. Mais moi, vraiment, il y en a plusieurs qui m'ont énormément touché, énormément parlé avec cette belle image, ce beau songe. C'est que l'échelle, donc, que l'on voit dans ce songe, est un rappel symbolique que le voile a été déchiré. Qu'est-ce que c'est ce voile, petit rappel? C'est que quand Dieu créa Adam et Ève, ils étaient parfaits. Parfaits. Et en parfaite communion et relation avec Dieu. Mais suite au péché, ils furent, Adam et Ève et tous les humains, séparés de Dieu. Et puis Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que le monde soit sauvé par lui. Et Jésus est venu rétablir cette relation qu'on avait perdue avec Dieu. Et pour rappel, le salaire du péché, c'est la mort. Le seul moyen d'avoir accès à Dieu était donc de se faire pardonner ses péchés par le biais de la mort d'un animal parfait, par le sacrifice. Ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans certaines sectes ou dans certaines cultures ou religions. Or, Jésus, le Fils de Dieu, étant donc parfait, s'est offert comme le sacrifice ultime et gratuit, sacrifice pour tous et une fois pour toutes, pour que nous puissions avoir pour toujours accès à Dieu le Père. Plus besoin de sacrifice d'animaux, seul le fait de reconnaître et d'accepter le sacrifice de Jésus à ma place, efface mes péchés et me donne accès au Père. Et c'est incroyable de réaliser que Dieu a donné son Fils unique. Moi, je vois mon Fils qui aujourd'hui, c'est mon seul Fils. Et je me dis plus tard, Seigneur, tu as donné ton Fils pour mes péchés, pour moi, afin que cette connexion soit rétablie. Et parfois, on dit certaines phrases, on dit certains mots, mais on réalise pas la profondeur et la grandeur de ce que Dieu a fait. Et c'est incroyable. Et aujourd'hui, nous avons ce libre accès au Père. Et pour rappel, parce que c'est vraiment important de rappeler le contexte, avant que Jésus vienne, seul le souverain sacrificateur avait le droit de passer au-delà du voile. Il y avait le temple, il y avait plusieurs pièces, et si vous voulez, à chaque fois, il y avait les sacrificateurs qui pouvaient aller dans un certain lieu, mais dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur, une fois par an, allait donc passer ce voile, dont on parle, et aller dans ce lieu où il y avait plusieurs choses, il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait certains objets, et une fois par an, il allait pour tous les péchés du peuple sacrifier un animal. Donc vous voyez, quand on sacrifie donc un animal, il y a ce sang qui coule, ça nous rappelle le sang de Jésus qui l'a versé il y a la croix, et ce sacrifice-là pardonnait le péché de tout le peuple. Et ça, chaque année, le souverain sacrificateur devait le faire. Et au moment de la mort de Jésus, quand il est mort à la croix et qu'il a donné son dernier soupir, la terre a tremblé. Et ce voile, alors c'est incroyable, je ne sais pas si vous saviez ça, mais le voile faisait 12 mètres de haut. 12 mètres de haut. Je ne sais pas si vous êtes bon en géométrie, mais 12 mètres, c'est énorme. C'est très très haut. Et faisait 12 centimètres d'épaisseur. Et ce voile, il s'est déchiré de haut en bas. Alors que Jésus a soufflé son dernier souffle, le voile s'est déchiré en deux. Matthieu 27. Et c'est incroyable, incroyable. Ce voile qui représentait cette séparation avec Dieu s'est déchiré afin que par Jésus, on ait toujours accès au Père. Incroyable. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Incroyable. En un sens, le voile symbolise Christ lui-même, le seul chemin vers le Père, Jean 14. Comme on le voit par le fait que le souverain sacrificateur devait entrer dans le Saint des Saints à travers le voile, maintenant Christ est notre souverain sacrificateur et par lui, nous avons accès au lieu très saint. Estelle l'a très bien dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il faut réaliser qu'on a un libre accès au trône de la grâce, un libre accès à sa présence. Et nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît logique, donc on se dit, bah oui, c'est normal. Mais avant que Jésus soit là, ce n'était pas forcément le cas. Il y avait les prophètes, Dieu parlait par certaines personnes, c'était vraiment différent. Et Jésus y est venu et a rétabli cette relation pour qu'on ait à chaque instant un libre accès à la présence de Dieu. Et cette présence, vraiment je sens cet encouragement du Seigneur, et puis Dieu m'a vraiment parlé de ne pas la galvauder, de ne pas le prendre comme si c'était quelque chose de normal, comme si c'était quelque chose d'acquis, comme si c'était quelque chose de... Ben voilà, c'est là dans ma vie. Non, on a un libre accès. Et vraiment, prenons du temps pour expérimenter sa présence. Jésus, il s'est pas donné pour rien. Il s'est donné pour que vous et moi ayons cet accès, pour vraiment recevoir de lui, parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joies, des délices éternelles à sa droite. Et vraiment, l'invitation du Père, de notre Abba Père, c'est qu'on prenne ce temps tous les jours, pas comme un rituel, pas comme forcément une discipline, mais vraiment comme un plaisir de venir dans la présence de notre papa d'amour, de notre papa céleste qui a des bonnes choses pour ses enfants. Et je sens que dans cette saison de vie, en tout cas pour ma part, mais quand je parle avec chacun d'entre vous, j'ai l'impression que très peu sont épargnés par cette folie d'aujourd'hui où on est par mons et par vos, on a 10 000 activités, notre travail nous prend beaucoup de temps. Et puis tout mêler, famille, amis, travail, église, c'est pas toujours facile. Et combien je pense il est important de s'arrêter vraiment et de prendre du temps avec Dieu. C'est tellement important parce que le temps passe tellement vite. on est là à droite, tac, 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 tac. Mais je pense que, un peu comme notre dîme, vous savez, pendant longtemps, je donnais ma dîme toujours en dernier. Et je peux vous assurer que les derniers 100, 200 ou 300 euros, ils font très mal. Parce que quand c'est juste ce qui vous reste sur le compte, eh ben, les donner, ah, c'est dur. Et puis Dieu m'avait vraiment parlé sur le fait de donner les prémices de nos revenus. Et c'est vraiment ce que j'ai changé aussi dans ma vie il y a plusieurs années, c'est de dire, ben voilà, dès que mon salaire tombe, Seigneur, de suite, tac, je te donne ma dîme. Parce que c'est à toi, Seigneur, en premier, avant mes courses, avant mes enfants, avant même moi, avant tout, c'est d'abord à toi, Seigneur, que je veux te rendre ce que tu m'as donné. Les 10%, Seigneur, c'est rien sur les 100% que tu m'as donné, c'est d'abord à toi que je veux les donner. Et je pense que c'est la même chose pour les temps qu'on passe avec Dieu, et je me prêche à moi-même, c'est avant toute chose, avant de commencer notre journée, avant de penser même à nos enfants, à notre femme, à nos maris ou à notre travail, de passer ce temps avec Dieu. Bonjour Saint-Esprit, bonjour Papa d'amour, bonjour Jésus-Christ, de vraiment de prendre ce temps, même si c'est 30 secondes, même si c'est juste une pensée pour Dieu, parce que c'est à lui que revient toute la gloire, c'est à lui qu'est dévouée notre vie. Et je pense que c'est lui qui mérite notre première pensée, notre premier bonjour. Et je pense qu'on a besoin dans nos vies, des fois, de remettre les priorités au bon endroit. Et je sentais vraiment que dans ce contexte de vie effrénée, combien il est important de remettre les priorités au bon endroit. Et ces temps avec Dieu, je pense, sont vraiment importants. Bien sûr, nos temps aussi avec nos familles. Mais priorisons du temps pour sa présence. Le voile est déchiré. Nous avons un libre accès à la présence de Dieu. Profitons-en, les amis. Profitons-en. C'est tellement bon, sa présence. Tellement bon. J'aime le dire que, pourtant, j'aime ma femme de tout mon cœur et ça fait partie des meilleurs moments que j'ai passé avec toi, chérie. Mais franchement, les meilleurs moments que j'ai passé dans ma vie, c'est pas avec ma femme, même si ça fait partie des meilleurs moments, mais c'est vraiment avec Dieu. Je vous promets, des moments dans la présence de Dieu, mais il n'y a aucun endroit aussi bon, aucun endroit aussi merveilleux que la présence de Dieu. Quand sa paix est là, quand son amour est là, quand le Saint-Esprit est là qui parle à nos cœurs, qu'on peut le sentir vraiment dans notre corps, qu'on peut sentir ce feu qui brûle. Mais franchement, il n'y a aucun lieu ailleurs où j'ai envie d'être. Un jour dans cette parvis, un jour dans sa présence, vaut mieux que mille ailleurs. C'est tellement vrai. Oh Seigneur, ta présence, elle est si bonne, Seigneur. Elle est si merveilleuse. Fais-nous prendre conscience, Seigneur, de cette présence qui est gratuite, qui est là, qui est disponible pour chacun d'entre nous. Ce festin est servi. Je te prie, Seigneur, que tu nous fasses réaliser combien ce festin est goûteux, combien il est merveilleux et que personne ne se prive de ce festin de ta grâce, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence et la sagesse de goûter à ce festin chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, pendant la nuit. Vraiment, Seigneur, que nous puisions à la source du salut, à toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a aucun autre endroit, Seigneur, où c'est aussi bon d'être. Aucun autre endroit, Seigneur, où on peut être autant restauré, autant encouragé, autant revigoré que là, en ta présence, Seigneur, où tu déverses tes bontés sur nous et sur nos familles, Seigneur. Oh Seigneur, fais-nous chérir ta présence, chérir ce moment avec toi, Seigneur. Viens, Seigneur, restaurer les cœurs. Viens, Seigneur, dans ces moments entre toi et nous, nous parler à nouveau, Seigneur. Jésus-Christ, tu as rétabli cette relation avec le Père. Et vraiment, je prie, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix. Entendre tout ce que tu as à nous dire tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Ce songe sur cette échelle que Jacob a eu rappelle que, comme je vous l'ai dit, nous avons un libre accès au trésor du ciel. Ne laissons rien nous condamner ou nous séparer de Christ. Car en réalité, rien ne le peut. Rien ne nous séparera de Christ. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et ça, vraiment, je sentais que c'était une parole pour plusieurs d'entre vous. C'est une chose de le dire, mais de le réaliser. Et je sentais que Dieu voulait le rappeler. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni ce que vous faites, ni ce que vous faites pas. Ni ce qu'on vous dit, ni les circonstances d'aujourd'hui. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Jésus-Christ s'est donné une fois pour toutes. Et cette relation, elle sera toujours là. Parce que même si on s'égare, il sera les 99 brebis pour aller te chercher toi. Toi, peut-être qui t'es égaré, il ira te chercher et il te ramènera à la maison. C'est important de le réaliser à nouveau. Et dans Hébreux 9, donc il est dit, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, donc ça c'était là, avant que Jésus soit là, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Waouh, Seigneur, il n'y a plus de séparation. Alors approchons-nous de Dieu librement et demeurons en sa présence à chaque instant. C'est à ça qu'on est appelé. Waouh, Seigneur. Et la deuxième chose vraiment qui nous apparaît avec Elo, c'est que cette échelle nous rappelle que le monde spirituel est bien réel. Et parfois, donc on oublie, donc on est dans notre vie de tous les jours, et puis on oublie qu'il y a le monde spirituel aussi, qui est lié bien sûr à celui terrestre, et que nous sommes appelés par Jésus lui-même à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 23. Et je vais laisser Élodie nous en dire plus.
Du coup, voilà, comme disait Olivier, cette échelle rappelle donc que le monde spirituel est bien réel. Et en effet, ça serait juste comme dire ben, le soleil n'existe pas. C'est comme si c'était dire ah, il y a des nuages, donc il n'y a pas de soleil. Je veux dire, c'est la réalité. On a beau fermer les yeux, on a beau. Voilà, c'est là et on pourra pas l'enlever. Et. Colossiens 3 nous dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et donc c'est bien précisé « Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. » C'est-à-dire que en acceptant Christ, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est notre ancienne nature de pécheur, entre guillemets, est morte. Et on devient une nouvelle créature, c'est bien la Bible qui le dit. On devient une nouvelle créature et nous sommes, voilà, nouveaux, nous avons une nouvelle vie. Du coup, aspirons aux choses d'en haut. Ne perdons pas de vue que notre demeure est avant tout au ciel. Et en fait, c'est bien écrit dans la Bible, nous sommes citoyens du ciel. Et de ne pas perdre cet objectif-là et cette vision-là des choses, que nous sommes passagers sur terre. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit négliger notre temps sur terre. Au contraire. Au contraire. Jésus, il est venu pas pour juger, mais pour sauver le monde, pour sauver ceux qui sont perdus. Ne perdons pas notre vision, ne perdons pas notre mandat qui est d'amener le royaume de Dieu sur terre et de faire de toutes les nations des disciples. C'est comme ça que Jésus, à la fin de Matthieu, nous a bien dit « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Et donc forcément, c'est un combat. On voit bien qu'il y a les réalités célestes, les réalités terrestres, mais les deux sont liés, les deux sont en lien. Et je pense que c'est important de ne pas perdre ça de vue. Éphésiens 6 nous rappelle bien que donc nous sommes dans un combat et de nous encourager à revêtir l'armure de Christ, le casque du salut. En effet, c'est parce que nous sommes sauvés par la foi un Jésus-Christ. Et nous savons que, quoi qu'il arrive, nous savons où nous allons. Nous savons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est la première base. La cuirasse de la justice. Recherchons la justice de Dieu. C'est la justice, c'est la cuirasse qui va nous protéger. C'est ça qui va protéger nos organes vitaux, nos cœurs, notre cœur, nos poumons. Recherchons les choses de Dieu. La ceinture de vérité. L'épée, qui est la parole de Dieu. Et en effet, l'épée, c'est la... Je dirais, c'est... Dans l'armure de Dieu, l'épée, c'est la seule chose qui est offensive, arme qui est offensive. L'épée, c'est la seule chose qui nous permet d'attaquer et qui nous permet de blesser, entre guillemets, l'ennemi en face. Alors, bien sûr, on précise, nos ennemis ne sont pas physiques, ne sont pas charnels. La Bible précise bien, ils sont spirituels. C'est dans le sens que, voilà, notre ennemi, on sait bien que, voilà, c'est le mal, c'est toutes ces choses-là. On ne se bat pas contre des personnes. Mais en effet, la parole de Dieu, voilà, c'est la seule chose qui peut vraiment pénétrer, changer les choses. Et notre bouclier, qui est notre foi, pour éteindre les traits enflammés du malin. Donc, en effet, gardons l'esprit que nous sommes bien au milieu d'un combat qui est déjà gagné par Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est l'avantage, c'est que nous sommes dans un combat qui est déjà gagné d'avance, mais forcément, comme vous savez, dans les guerres, il y a plusieurs batailles. Des fois, il y a des batailles qu'on va gagner, d'autres qu'on va perdre, mais ça ne dépend pas qu'on sait que la victoire est assurée. On sait que c'est déjà gagné, c'est déjà achevé. Et du coup, cette échelle de Jacob, moi, c'est une histoire aussi qui me parle, c'est une image qui me parle énormément. Dans le sens que, on voit que, comme disait Olivier, le ciel est ouvert. Donc, les anges montent et descendent sur une échelle. Ils sont étroitement liés. Et en effet, on peut, et Dieu nous a donné autorité de faire que les choses célestes puissent vraiment se manifester sur la terre. Et on a bien ce verset dans la Bible qui dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il y a un lien, c'est un principe biblique. Et pour le rappeler, on avait juste un petit exemple avec Olivier où on avait appris d'une de nos amies qui avait à peine, je sais plus, 3 ans, 5 ans, était d'un coup tombée très 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 gravement malade. Ils ont dû l'hospitaliser d'urgence, c'était vraiment extrêmement grave. Et du coup, nous avait dit priez pour lui, ils avaient démarré une chaîne de prière. Et du coup, on s'était mis à genoux avec Olivier dans notre petit logement de... Voilà. Et on s'est mis à prier, à intercéder. Et c'est comme si en priant, en proclamant des choses dans les lieux célestes, d'un coup, on a senti que l'atmosphère a changé. Et on a senti, ça y est, comme si la victoire était assurée. Or, on n'avait rien, on n'avait aucune nouvelle, elle était à l'hôpital, les nouvelles étaient catastrophiques. On s'est dit, bon, mais on avait senti qu'il y avait quelque chose qui, dans la prière, dans les lieux célestes, était vaincu. Il y avait une victoire, une bataille qui avait été remportée. Du coup, avec Olivier, on s'est dit, bon, ben, on arrête de prier, on a senti tous les deux, on s'est dit, bon, ben voilà, on arrête. Le lendemain, les médecins hallucinaient, l'enfant miraculeusement mais guéri. Ils n'ont pas aucune explication. Et cet enfant, il va super bien aujourd'hui. Il a, je sais plus quel âge, maintenant c'est un ado. Mais c'était une expérience, mais juste extraordinaire. On a senti, en intercédant, on a senti que dans les lieux célestes, quelque chose se passait. On a senti, ça y est, c'est bon, la victoire est là. Et elle s'est manifestée sur la terre après. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous encourage à vivre. Et cette histoire de l'échelle de Jacob, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Dieu, les anges, c'est quoi? C'est des personnes qui sont à... donc sous le commandement de l'Éternel, de Dieu, et qui sont censés être au service des hommes, des enfants de Dieu. Les anges sont là pour apporter des choses aux enfants de Dieu. Ils montent, ils descendent, ils sont constamment en action. Et c'est tout simplement à nous de faire que ces choses célestes, les bonnes choses que Dieu a pour nous, de les amener sur terre dans nos situations et dans notre contexte. Et donc je précise bien, Éphésiens 6, verset 12 nous dit bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et comme on le dit, c'est comme nier cela, ça serait comme nier qu'il y a le soleil derrière les nuages. On est bien d'accord, nous sommes dans un combat. Et quoi qu'il en soit, dans un combat... On a deux postures qu'on peut choisir. On peut choisir de rester passif et attendre que les choses se passent, mais de toute façon, Voilà, ça changera pas. Même si on sait que la victoire est loin, ben pour l'instant, on a plutôt l'impression de voir l'échec, la bataille va être vaincue et tout ça. Ou on a le choix de dire, mais jusqu'au bout, je me battrai. Et on le voit dans les... Voilà, si vous aimez, je sais pas moi, les films de guerriers, de héros, souvent on se dit, mais moi, jusqu'au bout, je me battrai. Et même si je dois mourir dans le sang ou sur le front, ben je mourrai en ayant combattu le bon combat, entre guillemets. Et moi, ce que nous encourage à faire, c'est que on sait que Dieu, que Jésus a vaincu. Et quoi qu'il en soit, battons-nous jusqu'au bout. Réclamons ces choses-là qui sont dans le ciel, sur la terre. Et c'est pas notre rôle de dire, ben, telle bataille, mince, elle a été, voilà, elle a été, ben, on a été vaincu ou quoi. Et souvent dans l'histoire, vous remarquerez que, je suis pas une très grande historienne, mais j'ai mon frère qui est prof d'histoire. Donc dans les batailles au niveau de la France mondiale et tout, des fois il y a même des batailles qui ont été des grosses défaites, mais ont participé à une victoire, à la victoire générale de la prise de terrain. Ils ont conquis du terrain grâce à ce qui paraît sur le coup comme ça une défaite. Et c'est vraiment un encouragement que je nous donne, comme quand on vient, par exemple, les vendredis soirs, les soirées à ciel ouvert. C'est vraiment un encouragement aussi pour nous. C'est pas juste une soirée. Ben, on vient pas là, pareil, pour se faire du bien. Ou être, passer un bon moment. Le but, c'est vraiment jeûner, prier, intercéder ensemble, parce qu'on sait qu'il se passe des choses dans les lieux célestes. Et pour nous, dans nos vies personnelles, pour notre ville, pour notre église, pour la France, et aussi pour nos familles. C'est-à-dire que c'est comme si, on se tient nous-mêmes entre, en tant qu'intercesseurs, en tant que, personnes qui sont, oui, qui sont là et qui, du coup, allons vivre des victoires au travers de nous et pour dans d'autres domaines. Donc Dieu est à l'œuvre même lorsqu'on ne le voit pas. Donc Jacob, en effet, n'avait pas conscience que ses anges montaient et descendaient du ciel à l'endroit même sur lequel il se trouvait. Mais Dieu lui fit cette promesse, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et c'est une question aussi qu'on peut vraiment demander au Seigneur. Déjà, est-ce qu'on est à l'endroit où Dieu nous a réservé? Où Dieu nous a appelés? Et si oui, est-ce qu'on peut demander à Dieu, montre-moi ce qu'il y a là, quelles sont les réalités célestes là, pour ma vie, dans cette situation-là? Parce que souvent, je trouve que c'est tellement facile de voir les choses en fonction de notre regard, notre situation. On regarde à nos pieds, ça va pas, et ça va pas, et on comprend pas pourquoi on va pas cette percée, cette victoire. Mais Dieu nous demande de voir ce que lui voit, ce qu'il a dans le ciel, en réserve pour nous. Et Dieu, en effet, lui a dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Postérité. Il avait en effet une promesse pour Jacob, et il a une promesse pour chacune de nos situations. Et donc, est-ce que je choisis de regarder à ce que mes yeux voient, ou bien à ce que Dieu veut me montrer? Par rapport à la situation dans laquelle je suis, ça peut être émotionnellement, affectivement, physiquement, moralement, financièrement, professionnellement, familialement. On a tous des domaines où des fois on se dit, mais voilà, on aimerait plus, on aimerait autre chose. Mais on peut changer les choses parce que Jésus, Dieu nous a donné autorité. Et du coup, j'avais juste un petit exemple par rapport à, donc personnel, par rapport à qu'on avait vécu récemment. Donc, on a acheté une maison il y a un an. Et donc, voilà, on a senti que c'était la maison pour nous, que le Seigneur nous avait donné et tout. Et récemment, ça a commencé des mois en arrière. On a commencé à avoir... une pièce a été inondée, des moisissures sur le mur, la voiture qui tombe en panne, avec des frais qu'on n'avait pas du tout anticipés. Que des choses comme ça. On s'est dit, mais c'est pas possible. Et problème sur problème, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à tel point, je me dis, mais Seigneur, mais... cette maison, c'est un cadeau empoisonné ou limite, je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur, quand tu donnes, c'est bien écrit de verser la bénédiction de l'Éternel enrichie, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Là, j'ai l'impression qu'il y a des chagrins. Et du coup, je me rappelle, j'avais tendance à, je me dis, mais c'est pas possible. Je commence à vraiment être pas bien, à commencer à angoisser, à penser la nuit, à me dire, mais comment on va faire et tout, toutes ces choses, et c'est pas possible. Et c'est tellement facile de, voilà, de dire, ben voilà, et de rester, voilà, après passive. Et au moment, j'ai senti le Seigneur qui me dit, mais, qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de tout simplement rester les yeux fixés sur la terre et tout ce qui va pas et dans ma situation. Et je me suis dit, mais attends, Seigneur, si tu nous as donné cette maison, c'est que tu as un but pour cette maison. c'est que c'est ta maison d'abord. C'est que tu veux vraiment que cette maison, ça puisse être un lieu d'accueil, que tu as des belles choses pour cette maison, pour nous, pour notre famille. Tu vas pourvoir à tout ça. Et j'ai commencé à choisir, à dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que toi tu vois. Et j'ai commencé à lever mes yeux vers le ciel, comme cette échelle, et à me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu as en réserve pour nous par rapport à cette maison, par rapport à notre situation? Et j'ai commencé à proclamer des choses, à dire non. J'ai dit, je proclame que cette maison, elle est bénie parce qu'on habite dedans et parce que ta présence, elle est dans cette maison. Je bénis les murs de cette maison. Je proclame que notre voiture, elle est bénie, que j'ai commencé à proclamer des choses comme ça, que comme si le Seigneur me montrait petit à petit qu'est-ce qu'il y avait dans les lieux célestes. Et petit à petit, je les ramenais sur la terre. Je proclame ça. Je lis tout problème financier, toutes choses qui se passaient dans notre vie. Et comme par hasard, à partir de ce changement de situation, d'état de pensée dans lequel j'étais, je vous dis, c'était 2-3 jours après, on commence à me dire, ah, au fait, parce que pareil, on voulait aménager, mais on avait voilà, il fallait amener ça financièrement, on n'avait plus, voilà, c'est compliqué. Et on dit, ah, au fait, on peut vous donner là des grosses pierres et tout pour aménager votre devant, ça vous dit? Comment ça? Moi, j'ai jamais été renseignée, c'était un prix exorbitant. Si vous voulez, en fait, j'ai un parasol là, si vous le savez, que des choses où j'avais, pour lesquelles j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, je proclame qu'on pourra aménager notre jardin comme ça. Je proclame que, et les choses ont commencé à changer. Les entrepreneurs étaient venus pour dire, mais on comprend pas d'où ça vient ce problème de fuite, non, mais c'est quand même bizarre. Il y a un autre qui revient, mais franchement, voilà. Et comme par hasard, c'était hier, et bien on a enfin trouvé la solution, alors que c'était un mystère pour tout le monde, fallait peut-être casser. Dieu sait tout. Et les choses ont commencé à changer, au final, c'est pas grand-chose, quoi, franchement. Donc on se dit, mais Dieu est bon, et on a la puissance, il nous a donné l'autorité pour changer nos situations. Donc comme cette échelle de Jacob, Dieu agit. Choisissons de voir ce que lui voit. Et choisissons d'être là, à cet endroit où Dieu nous attend, où les anges montent et descendent du ciel. Donc voilà, dans notre situation, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Nous avons accès à toutes les ressources du ciel, peu importe dans quelle situation nous sommes. Choisissons de les prendre et de s'en emparer par Jésus-Christ. »
Amen. Et une troisième chose qu'on avait vraiment à cœur de vous partager, c'est quelque chose qui nous a marqué aussi de Jacob, c'est que qu'est-ce qu'il a fait? Jacob ensuite, Jacob se leva de bon matin, donc verset 19, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et ce qui nous a marqué, c'est que Dieu s'est manifesté à Jacob et il a fait un monument, comme il est écrit, pour se rappeler de ce que Dieu avait fait. Et on voit ça souvent dans l'Ancien Testament, c'est que souvent, quand quelque chose de fort se passe, par exemple, quand Dieu a donné la victoire aux Israélites, souvent, ils érigent comme une stèle, comme il y a un monument, juste pour dire, voilà, là, on se rappellera grâce à ce monument, ce que Dieu a fait. Et même souvent, il y a un peu cette transmission, on rappellera à nos enfants et à nos petits-enfants de génération en génération ce que Dieu a fait. Et combien on trouve que c'est important de se rappeler ce que Dieu a fait. L'homme est oublieux. Je pense que vous l'avez tous noté. Moi, combien de fois j'ai dit ça, c'est sûr, je l'oublierai pas. Et plusieurs années sont passées, je dis, attends, mais qu'est-ce qui s'était passé déjà là? Et c'est fou, quoi. Mais même si on a plus ou moins une bonne mémoire, je sais pas ici qui a une bonne mémoire. Ben. Je suis sûr que même toi, Ben, parfois, il y a certains souvenirs qu'on te rappelle. Je dis, ah bon, c'est vrai, j'ai vécu ça. Parce que voilà, il y a tellement de choses qui se passent qu'on oublie. Et je pense que c'est important de se rappeler les choses. Et quelles sont les solutions pour se le rappeler? Soit c'est de se le rappeler chaque matin, soit c'est de dire, ah oui, tu te souviens quand on a fait ça ou quoi. Mais on pense aussi qu'il est important d'écrire. Écrire ce que Dieu nous dit et ce que Dieu fait. Et moi, je trouve que c'est une lacune qu'on a. Alors, je généralise, mais en tout cas, c'est vrai pour notre famille à nous. C'est qu'on a du mal à écrire parce qu'on a, pareil, une fois de plus, 10 000 choses à faire. Mais combien, je pense, c'est important de s'arrêter et d'écrire les visions qu'on a, d'écrire les bénédictions que Dieu nous donne, écrire ce que Dieu fait, les guérisons, les encouragements, tout ce que Dieu fait. Parce que quand on passe par des moments difficiles, quand on dit « Ah Seigneur, mais j'ai l'impression que tu n'es pas là », on ouvre notre cahier, on ouvre notre livre ou notre feuille, peu importe, et on dit « Ah, mais c'est vrai Seigneur, il y a 2 ans tu as fait ça, et il y a 6 mois tu as fait ça, et il y a 3 mois ça, et ça, ça, ça. » Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fortifie notre foi. De dire « Seigneur, ce que tu as fait dans le passé, tu peux encore le refaire aujourd'hui. » Ecclésiaste 3, verset 15. « Ce que Dieu a fait dans le passé, il veut le refaire. » Et c'est tellement important, je trouve, de compter les bienfaits de Dieu, de se rappeler toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Et de passer à nos enfants, à nos petits-enfants, racontons ce que Dieu a fait à toute notre famille. Parce que dans les temps difficiles, dans des déserts où rien ne va, où nos prières ne semblent pas dépasser le plafond, on se rappellera ce que Dieu a fait. Et vous allez voir que ça va ramener la foi dans nos moments difficiles, de dire « Seigneur, mais... j'avais oublié tout ce que tu avais fait, Seigneur. Combien tu es bon et rien ne t'échappe. » Oui, Dieu est fidèle. Et ce sont comme des bornes que nous plaçons sur notre chemin et qui nous aident à retrouver la route si on s'écarte. Ce sont comme des étapes dans nos vies où Dieu nous transforme, nous révèle quelque chose et qui va faire qu'on ne sera plus le même après. Quelque chose aura changé dans notre connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Ces bornes sont importantes pour garder courage dans les moments les plus difficiles, comme je vous ai dit, et permettront de réalimenter le feu de notre foi lorsqu'ils auront tendance à diminuer. Nous accrocher à ce que Dieu a fait et va faire. Et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'aime parler avec les personnes âgées. Et je veux honorer quelqu'un ici qui est parti à 93 ans, mais depuis que je suis tout petit, et puis elle venait donc nous garder quand on était sur Nîmes, elle s'appelait Églantine, et donc moi je l'ai toujours connue vieille parce qu'elle est décédée, je crois, il y a 1 an, et donc elle avait 93 ans, donc moi j'en ai 33, donc vous voyez, quand je suis né, elle avait déjà 60 ans. Mais cette femme, elle était incroyable parce qu'elle avait une foi une foi en Dieu, mais inébranlable, quoi. Dès que je parlais avec elle, alors que j'étais déjà petit, donc elle nous gardait, elle disait, mais Dieu est bon, mais toujours, c'était une femme de prière, tu disais, ah bon, tu traverses ça, eh bien, je prierai pour toi. Et j'ai eu la chance, quand j'étais ado, quand j'étais jeune, eh bien, régulièrement d'aller manger avec elle, tout ça. Et je me souviens, je passais des moments incroyables, quoi. Et puis il y a surtout un moment où on était à table, je me rappelle, je devais avoir 25 ans, et j'étais mangé chez elle, et d'un coup le Saint-Esprit est venu, on s'est pris un fou rire, un fou rire, parce que la présence de Dieu était là, et cette mamie de 88 ans peut-être à l'époque, qui riait vraiment dans l'esprit sa maison était remplie de la gloire de Dieu. Et elle m'a tellement inspiré par sa constance dans sa foi, que peu importe ce qui lui arrivait, peu importe ce que faisaient ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, elle priait pour eux, elle l'encourageait toujours, elle était toujours vraiment remplie de la joie du Seigneur. Et ça a été un exemple pour moi. Et c'est pour nous encourager que ces bornes-là, d'écrire, de se rappeler ce que Dieu a fait, ça va nous aider aussi, en vieillissant, même si on vit jusqu'à 90 ans, se rappeler ce que Dieu a fait. Et quand nos enfants, petits-enfants, physiques ou spirituels viendront nous voir, et bien comme cette églantine, on pourra être des repères pour ces jeunes, des repères pour nos enfants, de dire que, vous savez, peut-être que vous passez par des moments difficiles, peut-être que c'est pas facile la vie d'aujourd'hui, mais Dieu est bon. Dieu reste fidèle. Et je pense qu'en tant que père et mère, c'est notre appel, c'est rappeler à nos enfants et à nos petits-enfants combien Dieu est bon. Psaume 78, verset 4. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Exode 10, verset 2. c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens. Hein, rappelez-vous que Dieu a délivré Israël de la main des Égyptiens. Et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Que c'est important de se rappeler ce que Dieu fait et que ça puisse passer de génération en génération. On aime dire avec Elo que notre prière, c'est que nos enfants marchent sur notre plafond, qu'ils puissent aller encore plus loin. Mais je pense qu'on leur fera gagner du temps de leur témoigner jour après jour. Voilà ce que Dieu a fait. Dire que Dieu est bon, c'est déjà super. Mais donner des exemples concrets, dire, bah, tu vois, avec maman, on est passé par telle ou telle situation, mais voilà comment Dieu est intervenu, voilà ce que Dieu a fait. Et ça va leur dire, ben voilà, c'est pas que des paroles, c'est pas que des explications, non, c'est vrai, Dieu est bon. Voilà un peu ce qu'on voulait vous partager sur ce songe de l'échelle de Jacob. Et ces anges qui montent et qui descendent, waouh, c'est un rappel, hein, comme on l'a dit, que Dieu est là, que Dieu veut se manifester, que vraiment, que prenons conscience que les anges sont avec nous, que sa présence est là. Nous avons un libre accès à sa présence. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons un libre accès au Père et à toutes ses ressources célestes. Et voilà, vraiment, je voulais qu'on passe un petit temps, mais qui me semble important. Peut-être que ça fait quelques mois, quelques jours, quelques semaines ou années où tu marches et c'est vrai que les jours passent vite et peut-être que tu as perdu cette réalité ou cette notion que le ciel est là, que le Seigneur est là et que vraiment qu'il y a cet appel, comme on l'a dit, de tendre aux réalités célestes. Et je pense que c'est le temps de lever nos regards au ciel, de vraiment détourner notre regard de nos problèmes, de ce qui est difficile et de regarder à Dieu, de regarder à ce qu'il a fait. Et je sentais vraiment que le Seigneur voulait relever aujourd'hui et qu'il voulait changer vraiment ton regard, que tu puisses voir avec le regard de Dieu. Et peut-être que, Estelle, tu pourrais revenir. Parce que j'ai vraiment à cœur qu'on puisse rechanter ce chant qui dit « Abba Père, je suis à toi ». Mais le chanter avec cette prise de conscience que nous sommes à lui parce que le voile a été déchiré, parce que Jésus-Christ s'est donné pour nous, qu'il est mort donc à la croix, et que nous avons un libre accès vraiment au trône de la grâce, un libre accès au ciel. Et moi, c'est ce qui brûle en moi vraiment pour cette église, pour Montélimar, pour ce monde, c'est que le ciel envahisse la terre. Et les amis, prenons conscience que nous avons toute autorité. Jésus nous a donné toute autorité parce que nous sommes assis dans les lieux célestes pour réclamer des choses. Et je sens que l'ennemi a trop volé de choses dans nos vies et c'est le temps de les réclamer à nouveau. Dieu veut restaurer ce qui a été dévoré par les sauterelles. Dieu veut restaurer ce qui a été volé par l'ennemi. Et ça peut être des petits détails, mais peut-être que c'est ta joie, peut-être que c'est ton feu pour lui, peut-être que c'est ta famille, peut-être que ta famille, ben voilà, tout le monde est un peu par vents et par veaux, mais Dieu veut rassembler, Dieu veut réunir ce qui a été divisé. Et vraiment, si tu, il y a quelque chose sur ton cœur, s'il y a quelque chose qui brûle en toi, dis Seigneur, c'est vrai que j'ai perdu vraiment ce feu pour toi, j'ai perdu Seigneur cette connaissance que oui, ton ciel est là, que oui Seigneur, les anges montent et descendent, et que tu veux te révéler à moi. Comme à Jacob, tu as dit, ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Les promesses que Dieu t'a données, c'est oui et amen. Les promesses que Dieu t'a données vont s'accomplir. Et parfois ça prend du temps, parfois ça prend 1 an, 10 ans, 20 ans, mais je peux vous assurer que ces promesses vont s'accomplir. Alors si tu veux reprendre vraiment ce chemin de la foi, ce chemin de croire que ce que Dieu t'a dit, que ce que Dieu, vraiment quand tu as, comme Jacob, érigé ce monument de dire, voilà, waouh, Seigneur, tu t'es révélé à moi, tu m'as donné ces promesses, donc elles vont s'accomplir. Si tu veux recroire aux promesses que Dieu t'a données comme un symbole, je t'invite vraiment à te lever. Dire, Seigneur, je reprends la route de l'espérance. Je reprends, Seigneur, le chemin de la foi. De croire en ta parole, que ce que tu dis est vrai. Ces promesses sont oui et amen. Elles s'accompliront en son temps. C'est ce que la parole nous dit. Alléluia, Seigneur. Oh, Saint-Esprit.